David Rigoulet-Rose, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour la question du jour. La question qu'on a posée à nos auditeurs hier pour aujourd'hui était la suivante. La normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite peut-elle avoir lieu même si la guerre à Gaza n'est pas finie? Et on a vu que nos auditeurs sont à une très très large majorité, pensent que ce sera très difficile. Quel est votre avis?
Ah, dans l'immédiat, c'est très difficile, c'est même difficilement concevable à court terme. Après, à moyen et long terme, c'est autre chose. À court terme, tout simplement parce que vu les conséquences du conflit, les pays qui sont notamment l'Arabie Saoudite, évidemment, est obligé de tenir compte de la situation, de la cause palestinienne. Donc, dans l'immédiat, c'est effectivement pas d'actualité. C'est suspendu d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit le prince Mohammed bin Salman. Il avait parlé de suspension et non pas d'annulation, même
Exact.
si effectivement à long terme, voire à moyen terme, c'est éventuellement envisageable à certaines conditions.
Ben là, justement, on va peut-être y revenir un petit peu plus loin, mais dans ce que vous nous dites, pour donner une idée à nos auditeurs, quand vous parlez de court terme, on parle de semaines, de mois. Quand vous parlez de moyen terme, c'est à quel horizon?
En fait, ça va dépendre très très largement de l'évolution du conflit, à la fois de la dégradation de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, des conséquences que ça va avoir, de l'impact que ça a déjà sur les opinions publiques, ce qu'on appelle un peu caricaturalement la rue arabe, dont les gouvernants sont obligés de tenir compte, parce qu'il y a effectivement la cause palestinienne représente toujours quelque chose pour les opinions publiques. Et donc, ça va dépendre très très largement de l'évolution de cette situation.
D'accord. Comment expliquez-vous justement le fait qu'au jour d'aujourd'hui, on voit que dans le monde, à tort ou à raison, bien sûr, pour nous, c'est à tort, le monde arabe, mais pas que, et je dirais derrière la cause palestinienne, comment expliquez-vous que ce soit que cette ouverture vers de nouvelles négociations ou vers une reprise des pourparlers soit l'œuvre de l'Arabie saoudite? Est-ce que ça sous-entendrait que la rue saoudienne serait favorable à un plan de paix ou à des pourparlers de paix, de normalisation avec Israël?
Non, le prince Mohammed bin Salman est obligé de tenir compte de la sensibilité liée à la cause palestinienne. En revanche, effectivement, avant le 7 octobre, il y avait des négociations qui étaient déjà en cours. Il s'était pas inscrit dans le processus d'Abraham comme Bahreïn et les Émirats, mais effectivement, il y avait des déclarations qui se multipliaient sur le fait qu'il y avait un approfondissement des négociations dans cette perspective. Simplement, évidemment, le 7 octobre est arrivé et ça a mécaniquement hypothéqué, au moins dans l'immédiat, une finalisation potentielle. C'était d'ailleurs un des objectifs, parmi d'autres, de l'opération en question. Il demeure que ça reste un horizon, mais conditionné, évidemment. Et c'est là où c'est intéressant, puisqu'il y a une déclaration du ministre des Affaires étrangères saoudien, le prince Faisal Ben Farhan Ben Abdallah, dans le cadre du forum de Davos, où il considère. C'est intéressant dans la formulation et dans les détails de cette formulation que la communauté internationale a besoin de s'orienter davantage dans une direction, que la communauté internationale s'oriente désormais davantage dans, on va dire, la direction que l'Arabie saoudite souhaitait depuis le début, à savoir ce qui serait un cessez-le-feu et une augmentation de l'aide humanitaire, et que, évidemment, il y avait la possibilité d'un accord de paix avec Israël, pas immédiatement. À ceci près que la condition était la réalisation d'une paix avec les Palestiniens à travers la réalisation d'un État palestinien. Et c'est intéressant de la part des Saoudiens parce que ça renvoie explicitement, d'une certaine manière, à l'héritage de ce qu'on appelle le plan Abdallah de Beyrouth, qui a été formulé en mars 2002, qui prévoyait explicitement de la part de feu le roi Abdallah saoudien une normalisation à l'époque, donc entre Israël et l'Arabie saoudite. Conditionné par la rétrocession des territoires occupés et l'établissement d'un État palestinien, et qu'à ce moment-là, les choses pourraient être effectivement envisagées.
Bien, alors justement, est-ce que le fait que l'Arabie Saoudite revienne, je dirais, à la table, d'une certaine façon, des négociations, même si c'est purement rhétorique jusqu'à présent, est-ce que c'est pour aussi reprendre une place sur l'échiquier géopolitique? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intervention de l'Égypte, du Qatar, notamment pour l'entrée des médicaments à destination des otages à Gaza. Est-ce que ce serait une volonté je dirais, de la présidence saoudienne de reprendre une place importante sur l'échiquier.
Oui, c'est pas contestable. D'abord, la position du prince Mohamed Bin Salman est particulière parce qu'il est tenu, je disais, par l'héritage du clan Abdallah, mais aussi par l'attachement réel de son père, le roi Abdallah, qui est évidemment très âgé, à la cause palestinienne, qu'il a toujours explicitement ou sensiblement défendue. Donc, il peut difficilement se départir, effectivement, de cet héritage familial. Et en plus, il y a un deuxième aspect qui compte évidemment en termes géopolitiques, hein, c'est le fait que le royaume d'Arabie Saoudite est le royaume des deux lieux saints, c'est-à-dire qu'ils sont les gardiens des deux villes saintes, la Mecque et Médine. Donc il y a une responsabilité en plus par rapport à la Houma musulmane, la communauté des croyants. Donc il y a une double casquette, on va dire, qui oblige, entre guillemets, la gouvernance saoudienne à prendre en considération cette variable de la cause palestinienne comme un déterminant majeur. Ça explique les déclarations, même si les portes ne sont pas fermées, puisque l'ambassadeur saoudien à Londres, à la BBC, avait considéré que effectivement, cette normalisation n'était pas définitivement condamnée, que ça restait effectivement quelque chose, un horizon conditionné évidemment par un certain nombre de paramètres qui pour l'instant ne sont pas remplis.
Alors justement, David Rigoulet-Rose, quel serait le prix que les Saoudiens demanderaient à Israël de payer, en quelque sorte, pour que cette normalisation ait lieu? Parce que dans le contexte actuel, on sait qu'Israël est en guerre, donc c'est vraiment particulier cette démarche aujourd'hui. Donc quel serait leur avantage de remettre sur la table ces négociations? Est-ce qu'ils pourraient en demander davantage que dans un contexte de paix, par exemple?
Il y a un minimum de toute façon, à défaut d'un maximum, il y a un minimum, c'est-à-dire que la question des deux États est un préalable. Effectivement, du côté saoudien, ils ne peuvent pas se soustraire à ce minimum, pour les raisons que j'évoquais, à la fois sur la question de l'arabité avec le plan Abdallah, et puis de la Houma pour les villes saintes, puisqu'il y a la question très sensible de Jérusalem. Donc il y a effectivement l'idée que il y a une nécessité, d'ailleurs, qui a été rappelée. C'est le viatique américain, hein. Et quand vous avez eu la visite d'Anthony Blinken, il a rappelé que, il y avait un intérêt pour les Saoudiens à poursuivre dans la voie des négociations. Et il a insisté là-dessus. Mais effectivement, c'était une manière aussi de se recentrer sur la question, la dialectique, effectivement, des deux États, dont le flou est entretenu par, évidemment, le gouvernement israélien actuel. Donc, d'une certaine manière, il y a une convergence. C'est un peu la politique de la carotte et du bâton, on va dire, hein, de l'administration américaine. Une manière de dire aussi au gouvernement israélien, vous voyez, cette possibilité n'est pas fermée de manière définitive, mais elle n'est pas inconditionnelle.
D'accord. Une toute dernière question. Est-ce que finalement, le fait de reprendre ces pourparlers avec Israël, on sait que les atrocités, le massacre qu'a perpétré le Hamas le 7 octobre, certains observateurs s'accordent à dire que c'était pour enrayer ce processus de normalisation qui était loin déjà avec l'Arabie Saoudite. Est-ce que ce ne serait pas une gifle monumentale au Hamas et quelque part une vraie défaite pour le Hamas, ces pourparlers?
Oui, pour le Hamas et surtout pour l'Iran, en fait. Parce qu'un des objectifs de l'Iran, on l'a vu dans le rapprochement, et c'est ça qui est intéressant à mettre en perspective, le rapprochement, la normalisation, pour le coup, entre guillemets, entre Riyad et Téhéran, qui s'est effectuée en mars 2023, avait probablement comme objectif principal, de la part de Téhéran, pas de la part de Riyad, mais de la part de Téhéran, un souci d'empêcher le rapprochement qui se dessinait, effectivement, une normalisation potentielle avec Israël. Et puis, ça n'a pas été suffisant et est intervenue l'opération tragique du 7 octobre, qui a du coup hypothéqué de facto cette normalisation, mais qui l'a suspendue dans le vocabulaire, effectivement, des États concernés et qui ne l'a pas annulée. Et donc, on voit bien qu'il y a une logique transactionnelle qui peut se dessiner en termes de perspective pour le jour d'après, d'une certaine manière. Ça entre aussi en ligne de compte.
Ben, en tout cas, ben, on forme des vœux pour que ça se passe le mieux possible. Un petit peu de lumière dans ce tunnel fort sombre, finalement, ça ne fait de tort à personne. Merci infiniment, David Rigoulet-Rose,
Merci.
d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et bien sûr géopolitologue. À très bientôt. Je vous souhaite une très belle
Merci
journée.
à vous.
Au revoir.
Merci. Au revoir.